Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Ah, que j'avais hâte d'accueillir mon prochain invité parce qu'il s'est passé plusieurs jours déjà depuis le dernier match des Alouettes contre les Argonauts de Toronto. Il y a eu la Coupe Grey et il y a eu le bilan des dirigeants mardi. Il y avait du hockey du Canadien mardi et mercredi soir. Nous voilà jeudi et à mon tour de plonger dans le bilan des Alouettes, mais surtout dans le présent et dans le futur, dans ce qui s'en vient. Il y a des décisions très importantes à prendre pour l'organisation à plusieurs niveaux, tels que j'en parlais tout à l'heure en introduction. Et justement, pour aborder certains de ces enjeux, là, accueillons le directeur général et entraîneur-chef des Alouettes, Danny Matioscia. Bonsoir, Danny.
Bonsoir, Mario. Comment ça va?
Ça va très bien, toi-même?
Ça va bien, merci.
Plusieurs questions pour toi, mon cher Danny, ce soir. Puis tu vas constater que déjà, j'ai la tête ailleurs qu'au dernier match, même si on va peut-être y revenir. Tu as parlé mardi en conférence de presse de 4 candidats pour le rôle d'entraîneur-chef. Est-ce que le processus des entrevues est entamé?
Je dirais qu'on va commencer la semaine prochaine. On va communiquer, contacter les candidats, puis on va avoir une opportunité de les rencontrer face à face. Puis c'est sûr que ça va être un processus qui devrait durer en 3-4 semaines d'après moi. Et j'espère qu'on va avoir le prochain entraîneur-chef en place avant les fêtes de Noël.
J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Anthony Carvillo vendredi dernier à l'occasion du lancement de son livre « Le passeur ». Et l'occasion était belle pour moi, surtout que votre bilan n'était pas fait, mais de lui poser des questions. Et il nous a dit en français à part ça qu'il souhaitait avoir l'opportunité d'avoir une entrevue pour présenter au propriétaire sa vision de ce que lui, il ferait où il voudrait amener l'équipe si on lui donnait l'occasion d'être entraîneur-chef. Bon, j'imagine qu'à l'intérieur, peut-être que ça vous a court-circuité qu'ils le disent publiquement, mais ça serait, j'imagine, malvenu de ne pas lui donner cette audition-là. Est-ce qu'on peut dire qu'il est l'un des quatre?
Non, je ne peux pas le dire qu'il est un des quatre. Puis Anthony, c'est un entraîneur très confiant. Comme on a 8 autres à l'AFN qui probablement pense de la même façon, puis c'est pas un manque de confiance de leur part, parce que je suis sûr qu'eux, ils pensent que à la barre des Alouettes à Montréal, ils peuvent probablement nous amener à un autre niveau. C'est d'aller chercher quelques victoires de plus, d'aller chercher la victoire qu'on a échappée dans la finale de l'Est, puis là, d'aller à la Coupe Grey. Alors, c'est des entraîneurs qui sont très confiants en leurs moyens. Puis pour ça, je le respecte énormément. Mais à la fin de la journée, on va prendre la décision qui est mieux pour les Alouettes de Montréal.
J'ai parlé de ça en introduction d'émission, donc que j'ai eu connaissance que Gary Stern était en ville et était dans les bureaux des Alouettes. Et donc, j'étais curieux de savoir, Danny, donc tu t'apprends rien, tu as dû le côtoyer, j'imagine. Est-ce qu'il est impliqué dans le processus? Est-ce que c'est lui qui vous a fourni à Mario et à toi le feu vert pour dire, voilà, vous pouvez aller de l'avant avec l'embauche et le budget que ça implique?
Oui, exactement. Tu as toujours besoin le feu vert du propriétaire avant que tu te mettes au téléphone puis tu commences à passer du monde en entrevue, ou peut-être tu leur demandes de venir en ville puis ils commencent à prendre des avions, tu les rencontres puis tu es en train de réserver des chambres d'hôtel. C'est sûr que tu as besoin d'un budget, en sachant que si jamais tu vas l'engager, mais tu as besoin d'avoir des termes, puis c'est quoi la compensation que tu vas leur donner, puis c'est pour combien d'années. C'est sûr que ça commence avec les propriétaires en disant que voici le budget que tu as, puis tu as le feu vert que tu peux procéder.
On a entendu de la bouche de joueurs dans le bilan des joueurs de la saison dernière qu'il y en a qui n'avaient pas apprécié, par exemple, les tweets qui ont été publiés par M. Stern pendant la saison. On a senti que peut-être que toutes les flûtes n'étaient pas alignées au sein de l'organisation. Toi, est-ce que tu as senti que ça avait dérangé l'équipe et est-ce que la perspective de constater que M. Stern redevient ou revient dans le portrait comme représentant possible des actionnaires, es-tu à l'aise avec ça, avec son retour? Puis est-ce que ça nécessite des conversations pour que toi, tu sois rassuré par rapport à l'environnement de travail dans lequel ça va se poursuivre?
Ben écoute, tu poses toute une question, Mario. Mais écoute, est-ce que c'est... Moi, les tweets, là, Twitter, c'est pas quelque chose que... est-ce que j'ai un compte de Twitter? Oui. Est-ce que je suis actif sur Twitter? Non. Est-ce que je passe beaucoup de temps là-dessus? Non. Est-ce que c'était un problème? Peut-être pendant l'année, ou peut-être pour certaines. Je sais qu'il y en a des joueurs qui ont sorti puis ils ont dit qu'ils l'ont pas tout à fait apprécié. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai adressé assez vite quand j'ai descendu dans le vestiaire. On en parlait en équipe. On avait un comité de leaders, leadership committee, comme je l'appelle, puis on a parlé, c'était une affaire de 10 minutes, on a parlé en équipe avec les joueurs, puis c'était plus un sujet de reprendre pendant l'année. Alors, c'était jamais quelque chose qui a fatigué ou qui a dérangé la performance de l'équipe. Gary a son style, a sa façon de faire des choses. Il accepte sur Twitter. Je pense que ses intentions sont pures sur Twitter, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'attire trop, puis c'est pas quelque chose qui me fatigue non plus. Ça, c'est quelque chose que ça lui appartient. Puis pour nous, l'équipe, ça devrait nous jamais déranger concernant nos performances sur le terrain.
Il y a une question importante en suspens au-delà de l'identité du prochain entraîneur-chef, c'est de savoir, est-ce que Mario Cecchini va demeurer en poste comme président des Alouettes d'Annie? Est-ce que pour toi, bon, selon mes informations, puis Mario nous l'avait dit que lui, il souhaitait poursuivre, mes informations me disent que l'actionnariat souhaite évidemment que ça se poursuive également avec Mario. J'imagine que c'est aussi ton souhait que Mario demeure en selle.
Oh, écoute, Mario, cette question-là est la question la plus facile que je vais répondre ce soir. Pour moi, je vais me sentir blessé s'il n'est pas de retour. On fait toute une équipe, c'est tout un leader, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, puis écoute pour comprendre. Tout ce qu'on a bâti les trois dernières années, c'est il était toujours à mes côtés, il m'a encouragé. Des fois, quand je me pose des questions où je suis pas tout à fait sûr, je m'en vais dans son bureau, même pour des questions de football, même quand ça concerne des joueurs ou des coachs, parce que c'est quelqu'un que j'ai énormément de respect et est capable de te bien guider. Alors, c'est tout un leader, puis c'est quelqu'un que, je répète, que j'apprécie énormément, puis j'espère fortement qu'il va être de retour, parce que s'il est pas là, je pense qu'on va sentir le fait que ça manque de présence ici autour de l'organisation. Il est apprécié par tout le monde, que ce soit en haut, au deuxième, premier étage ici ou dans le vestiaire par nos joueurs puis nos assistants coachs. Alors, j'espère que Mario Cecchini va faire partie de l'édition 2023 des Alouettes.
On se parle depuis longtemps d'Annie Matiosha et c'est tu viens de parler avec ton cœur là pour répondre à cette question-là, pour parler de Mario Cecchini. Et j'imagine que si tu es en mesure de me dire ça publiquement, que tu as eu l'occasion de dire ça à Gary Stern ces derniers jours pendant qu'il était à Montréal, non?
Oh oui, Gary est déjà au courant comment je me sens dans le dossier de Mario Cecchini. Puis je lui ai même dit que même pendant les moments les plus difficiles ici, je rentrais le matin, puis Mario, il m'attendait, que ce soit dans son bureau ou dans mon bureau, puis c'était un genre de thérapie là il m'a aidé énormément dans le sens que tu sais, il m'a toujours encouragé, il m'a toujours supporté, puis il était toujours présent après les défaites. Puis ça, c'est quelque chose que tu sais, les gens, je pense pas que tout le monde réalise jusqu'à quel point ça peut avoir un impact positif dans ta vie, puis dans ton travail, puis ça se sent partout. Puis les gens autour de nous l'apprécient énormément. Puis c'est sûr que ça nous a aidé énormément dans la séquence de victoire puis l'élan qu'on a eu à la fin de l'année.
Personnellement, là, je t'écoute très attentivement. As-tu vécu quelque part pendant l'année un grand moment de découragement? As-tu craint, Mané, que ça allait pas tourner du bon bord, puis tu sais, c'était quand même une opportunité que tu voulais pas rater, là, hein, quand même l'opportunité d'enfin diriger les Alouettes. Y a-tu psychologiquement, Mané, as-tu eu besoin d'un break?
Bien, c'est sûr qu'il y avait une période que probablement j'en avais besoin. Je me suis posé des questions aussi. Il faut comprendre, Mario, la raison que j'ai descendu en bas, c'est parce que c'était pour moi, les Alouettes, une grande partie de ma vie. Alors, il ne faut pas oublier que je faisais du bénévolat ici en 96 et 97. Alors, cette organisation, c'est le logo là, est tatoué sur mon corps. Alors, pour moi, les Alouettes sont tellement, tellement importants dans ma vie. Puis, tu sais, je pouvais facilement prendre la décision de m'asseoir en haut, puis de regarder tout ça d'une certaine distance, puis d'attendre à la fin de l'année, puis on va dire, écoute, on n'a pas fait l'essai éliminatoire, puis là, on va passer à des changements. C'est pas ça que je voulais, mais je savais que, tu sais, en faisant qu'est-ce que j'ai fait, que ça sera pas facile au tout début, parce que dans le processus, tu vas toujours avoir un petit peu de résistance, du doute et des échecs. Et on l'a vécu tout ça au tout début, mais on a travaillé tellement fort ensemble et on a créé un environnement où tout le monde pouvait s'exprimer puis de travailler en paix. Puis ça nous a aidé énormément de terminer la saison sur, comme j'ai dit, sur une fiche 9-9, mais sur une séquence de victoires que ça nous a fait du bien.
La question suivante est pas facile, pas que c'était facile depuis le début, mais est-ce que au moment de remercier Carey Jones et de prendre la relève, as-tu senti l'appui de l'actionnaire propriétaire Gary Stern ou tu l'as senti une fois la situation virée de bord, c'est-à-dire quand vous avez commencé à gagner des matchs?
Non, quand j'ai amené la recommandation à Gary, il l'a accepté en 5-10 minutes, il a posé quelques questions. Il voulait savoir dans quelle direction je m'en allais, puis comment je voyais tout ça, comment ça pouvait affecter les autres assistants coachs, les joueurs. J'ai répondu à ces questions-là, puis il m'a supporté. Alors, j'ai pas eu de problème là-dessus. Zéro. Je peux pas dire que il m'a compliqué la vie parce que ça, c'est malhonnête de ma part.
Tu as dit tout à l'heure que tu te sentirais blessé si jamais Mario Cecchini ne devait pas revenir en 2023. On souhaite tout le monde que lui et M. Stern et les actionnaires, les propriétaires, aient une négociation concluante et positive. Et est-ce que ça remet quoi que ce soit en question par rapport à toi s'il devait ne pas être là ou ne plus être là? J'ose la question.
C'est sûr que ça va avoir un effet sur moi. C'est là où tu t'assois et il faut réfléchir à plusieurs choses en sachant que oui, je suis sous contrat. Pendant qu'on se parle, je veux être de retour. Je pense qu'on a quelque chose d'intéressant entre nos mains, qu'on peut continuer de bâtir ensemble. Mais c'est sûr que si jamais, je veux même pas y penser là, mais si jamais Mario n'est pas de retour, ça va frapper assez dur.
Wow. Parce que je ne veux pas interpréter, est-ce qu'on peut dire que donc ta présence continue au poste de DG, dans un poste important, est conditionnelle au retour de Mario Cecchini?
Non.
Tu ne vas pas jusque-là? Non.
Je dirais pas ça. Mario a besoin de faire ce qui est mieux pour Mario, puis Mario me dirait la même chose, jusqu'à quel point que. Pas seulement que c'est tout un leader, mais tout un gentleman, il va se dire d'aller prendre la décision qui est mieux pour toi. Mais moi, je souhaite continuer, je veux continuer. J'ai pas quitté l'Université de Montréal pour venir aux Alouettes pour une période de 3 ans. C'est pas ça que j'envisageais quand j'ai pris le poste ici, puis je veux continuer de le faire avec Mario Cecchini, parce que je pense que il y a plusieurs d'autres chapitres qu'on peut écrire dans ce beau livre. On va publier à un moment donné, mais ça sera beaucoup plus facile s'il est à mes côtés.
Et j'en suis convaincu qu'il y en a plusieurs beaux chapitres encore à écrire. Et je termine l'entretien ou sur le point 2 en revenant sur le terrain dans ton poste de DG. Trevor Harris, quand même, le fait que c'est plus important de le garder là, t'en conviendras, que ça l'était il y a 12 mois, alors qu'on n'était pas sûr que c'était notre numéro 1. Vernon Adams, t'es encore dans le portrait. En ce moment, ça ferait plus mal de perdre Trevor Harris que ça aurait fait mal l'an passé. T'es d'accord, Danny?
100% sûr, puis je souhaite qu'on peut garder notre fondation, notre noyau de joueurs en place. Il y en a quelques-uns qui sont des joueurs autonomes, que ce soit Trevor, que ce soit Gino Lewis, puis on va travailler tellement fort de les ramener ici. C'est sûr qu'il y a un plafond salarial à respecter. Je pense que tout le monde sont conscients du plafond salarial, puis on va le travailler après qu'on engage l'entraîneur en chef, parce que je veux que l'entraîneur en chef ait un mot à dire à notre personnel.
En même temps, on est tous d'accord pour dire que n'importe quel coach, à moins d'être un peu faillé, veut avoir, j'imagine, Geno Lewis et Trevor Harris. Peut-être que tu n'as pas le bon choix de mots, il y a d'autres bons joueurs, là, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Fait que tu as dit que c'était une priorité. L'objectif est-il de les laisser tester le marché des joueurs autonomes ou tu ne les laisses pas se rendre là dans un monde idéal?
Non, le but ultime, c'est de les signer avant d'être joueurs d'autonomes. Si jamais on est rendu dans la période des joueurs d'autonomes, ça veut dire que ça va être un petit peu plus compliqué de les garder ici. Alors, on a du travail, on a du temps quand même, parce que la période des joueurs d'autonomes commence dans le mois de février. Mais j'espère de régler ça avant cette période.
Wow, Danny, c'était tout un bilan qu'on vient de faire ensemble et beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche pour toi avec les auditions qui vont s'en suivre. Merci de toujours être disponible. Je le répète, je le réitère, c'est tellement important et précieux pour nous, gens des médias, pour le public, de pouvoir en plus parler en français avec la majeure partie de l'auditoire, des fans des Alouettes. Alors, je ne peux que souhaiter que vous poursuiviez là où ça s'est arrêté. Et je termine, je veux pas tourner le couteau dans la plaie, Danny, mais dire, ça fait mal quand même de voir Toronto gagner la Coupe Grey quand on... oh boy! Mais en même temps, tu te dis, c'est faisable. C'est faisable dès l'an prochain. C'est ma conclusion.
C'est sûr que c'est faisable. Puis tu sais que j'adore de discuter de football avec toi, Mario. Je t'apprécie énormément. Puis je pense que nos partisans ont toujours besoin d'être au courant de ce qui se passe avec les Alouettes de Montréal, parce que c'est une équipe que nous, on voulait ramener au peuple, puis cette équipe leur appartient.
Vraiment, et c'est toujours ça que j'ai dit. Les équipes, oui, il y a des propriétaires, il y a des gens qui payent les billes, mais c'est au monde que ça appartient, parce que quand ça ne veut plus rien dire pour le monde, ben ça ne vaut plus grand-chose pour le propriétaire, tout simplement.
Exactement.
Ou les propriétaires. Ben Danny, merci beaucoup encore de ta générosité. Je te souhaite une bonne soirée, bon processus avec tes entrevues pour le futur coach.
Merci, puis bonne soirée.
Merci, Danny. Excellente soirée à toi.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
Vous entrez maintenant dans la Poche Bleue. La formation de départ, the starting lineup, le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse.
Ford, construit avec fierté.
Édition du 24 novembre, un jeudi. C'est rare qu'on se retrouve les trois ensemble un jeudi soir. Le calendrier du Canadien qui provoque les choses ainsi. Bonsoir Guillaume, bonsoir Maxime.
Salut Mario.
Passez une belle semaine. Le ciel est tout aussi bleu à l'horizon que vos poches, les boys.
Oui, tout est... tout est très beau, Mario.
Tout est très, très beau. OK. Ouais. Tellement beau que... Hey, c'est quand la dernière fois que j'avais vu deux joueurs du Canadien rouler à un régime de un point par match et plus?
21 en 20 quarts.
Hey, c'est moi et Guillaume, on avait un point, mais on a un point d'un côté.
N'avait pas un point première game de l'année aussi.
Ouais. Non, mais d'avoir des gars qui produisent un rythme régulier, là, on est rendu au quart de la saison. Là, ça commence à être une tendance. Les gars, tu sais, des fois, après un match, on dit on s'énervera pas.
Mais moi, ce que j'aime, c'est les performances sur la route quand même. Tu sais, on avait des gros doutes là-dessus sur ces deux gars-là depuis Suzuki Caulfield depuis le début de l'année, et puis l'an passé, face à leur performance sur la route, puis je trouve que cette année, on n'a plus ce questionnement-là. T'sais. Comme tu dis, on est quasiment le quart de la saison de fait. Puis force est d'admettre qu'ils sont capables de jouer à la maison, sa route, performer, puis ils sont bons aussi dans les moments critiques. T'sais. Puis là, c'est sûr, j'ai en tête la game contre les Flyers à 1,9 secondes, mais les fins de match qui ont été présents, ils ont réussi à créer quelque chose, puis à terminer ça. Fait que non, je trouve que c'est le fun de voir ça pour les prochains 15 ans, espérons-le.
C'est la première fois, Mario, depuis Carey Price, qu'on construit sur quelque chose d'autre que Carey Price. Puis là, c'est pour vrai. T'sais, on a une vraie fondation. C'est pas un Kotkaniemi, ou c'est pas un peut-être, ou c'est vrai. C'est des super vedettes dans la Ligue nationale d'hockey. Ils sont vraiment bons, sont créatifs. C'était encourageant cette année de voir qu'ils sont capables d'aller chercher leurs points, leurs buts de différentes façons, parce que l'an passé, c'était pas mal. Tu sais, Caulfield, il marquait toujours de la même place, puis tu voyais qu'il y avait, je veux pas dire un manque de créativité, mais là, il a appris à être un vrai joueur de la Ligue nationale d'hockey. Il trouve des façons de marquer à tous les soirs. Des fois, c'est par sa vitesse, par son échec avant. On voyait pas ça l'an passé. Des fois, c'est par son éthique de travail. C'est plus juste un Cole Caulfield qui se positionne dans l'enclave, puis qui reçoit la rondelle au bon moment, puis Suzuki, de Suzuki, hein, c'est les deux sens de la patinoire, c'est un des meilleurs passeurs dans la Ligue nationale de hockey en ce moment. Puis je pense qu'on apprend juste à les découvrir en ce moment. Là. Je pense qu'ils ont encore plus à offrir. C'est deux vrais joueurs de hockey qui sont dans la crème de la Ligue nationale de hockey. Puis j'ai hâte de voir comment on va les entourer, par contre. Parce que là, tu sais, tu regardes eux, tu regardes peut-être l'éclosion de Doc Hallel qui fait des bonnes choses. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher des gars maintenant pour avoir un vrai troisième trio, un vrai quatrième trio? Parce que si tu regardes le futur sur le trio 2-3-4, il n'y en a aucun. Il n'y a vraiment rien là-dessus. À la défense, je pense que c'est réglé. Puis dans le filet, ben là, on n'a pas encore notre Carey Price, mais on a un gars comme Montembeau en ce moment qui s'améliore tellement, qui est en train de pousser l'organisation du Canadien, de au moins le considérer comme le gardien à long terme, comme deuxième gardien pour le Canadien de Montréal pour très, très longtemps.
Et je pense qu'on est obligé de considérer de lui donner un deuxième départ de suite pour la première fois cette saison. Il l'a fait l'an passé alors qu'il jouait malgré une blessure. Puis ça serait pas, je pense, un vote de non-confiance à Jake Allen. Tu dis, Jake, repose-toi, bonne fin de semaine. Tu gardes le filet mardi contre San Jose. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Un deuxième départ de suite pour Sam?
Je pense que t'as pas le choix, moi. De la façon qu'il a performé, puis... À l'inverse, si Allen te donne de bons matchs, puis là, t'as un 2-2, tu dis, on va mettre Montembeau, il y a un bon match aussi, fair enough que tu reviennes avec Allen. Mais le match contre Philadelphie, tu te retrouves à être obligé de marquer 1,9 secondes pour aller en prolongation. Le match contre Buffalo, il y a quelques buts faibles. Tu sais, non seulement Montembeau te garde dans le match, mais en plus, il gagne. L'autre, non seulement, il te sort du match, puis il perd. Fait que je pense que si on fait le calcul, pour moi, Montembeau... Puis, tu sais, moi, au-delà de ça, là, c'est la préparation de Montembeau. Je trouve que dans son... La façon qu'il est, sa prestance, je trouve qu'elle est bien meilleure dans le filet. Sa confiance est meilleure. À un certain moment donné, il faut tester ce gars-là aussi. On a beau dire Jake Allen, parfait, c'est le premier, mais à quelque part, Montembeau, faut le tester. Qu'est-ce qu'il peut nous offrir, ce gars-là, le jour qu'on décide? Tu sais, Allen, vas-tu être ici pour toute la durée de son contrat? Qu'est-ce que Montembeau peut faire? Faut l'évaluer à quelque part, là.
Ben, absolument. Ouais,
Je suis d'accord avec Guillaume. Puis tu sais, Mario, si on regarde l'historique du Canadien, là, si on était capable de tasser Carey Price pour Yaroslav Halak, on est capable de le faire avec Jake Allen aussi. Là. C'est le gars qui mérite d'être dans le filet en ce moment, c'est Montembeau. Il a l'air confiant. Puis je veux voir aussi jusqu'à où il peut aller avec la confiance qui est dans le filet à toutes les semaines, puis que deux matchs consécutifs, tu sais, ce gars-là, on le mentionne depuis le début de l'année, là, c'est pas facile de se construire une confiance, un match à route, un match à maison quand tout le monde est fatigué. Donnons-lui une semaine complète, voir comme un vrai gardien numéro un, voir comment il réagit à tout ça.
Puis tu sais aussi, là, Mario, je reprends la balle au bon, là, mais les attaquants, on a une compétition interne, les défenseurs, on a une compétition interne, on a mis Jack Hyde des estrades, on bouge l'alignement, d'un gardien, pourquoi on peut pas le faire aussi? Tu sais, à quelque part, là, oui, Montembeau est peut-être pas l'étiquette encore d'être un gardien numéro un ou un gardien numéro deux, c'est aidé dans la Ligue nationale, mais faut l'essayer, faut lui donner la chance, puis faut qu'il compétitionne Allen. Faut qu'Allen, il soit pas assis dans sa chaise puis qu'il dise, c'est moi le premier, peu importe ce qui arrive. Faut que ce gars-là aussi se sente poussé par en arrière puis qu'il sente qu'il peut perdre son filet par Montembeau.
Qu'est-ce que tu ferais de même?
Max fait des niaiseries en arrière quand je parle. Puis là, il me fait très solide.
Maxime.
J'allais casser Mario.
Ah oui? C'était quoi? C'est quoi la grimace que tu as faite, là? On est en radio pour que le monde il trouve ça drôle.
Il a fait l'agitateur.
C'est plus l'agitateur, ouais.
T'as-tu fait la face que tu faisais des fois dans des situations de match, là, Max?
Exactement, ouais. Je l'ai poigné, Mario. Je suis content. 1-0, Maxime, ce soir.
Ah, c'est bon. C'est le fun d'avoir du fun aussi. On rit jamais trop, 100%. Les gars.
On rit jamais trop. Ça a été une semaine pesante quand même. Là.
Ah!
Faut s'amuser.
Tu t'es pesé?
À quoi? Oui, je me suis pesé, Mario.
À quoi tu fais allusion?
Un certain livre.
Ah oui? Des livres en trop? Non? Non?
Non, pas en trop. C'est juste pas le drame, je vais dire le drame qui est autour de tout ça, je trouve que ça a été pesant. Là. Je tenais à dire qu'au bout du compte, c'est juste un livre, c'est juste quelqu'un qui a écrit un livre, puis on peut passer à autre chose. À un moment donné, on peut pas en parler pendant un mois.
Ben écoute,
là,
moi
j'en parle.
Ben ouais. Fait que toi, Guillaume, t'as-tu trouvé ça pesant toi aussi?
Depuis 2-3 ans, je suis pesant.
Non, mais
je suis d'accord avec Max, je pense que ça a pris beaucoup de place dans le côté média depuis le début de l'année. Depuis le début de la semaine, excuse. Puis c'est ça. Au final, oui, ça a fait. Le monde a dit ce qu'il y avait à dire. Puis il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Au final, gars, c'est that's it, ça va passer. Puis les gens qui vont le lire vont être contents, ils vont avoir un livre de qualité à lire. Je trouve ça plate pour quelques personnes qui sont écorchées là-dedans, que peut-être qu'on n'avait pas besoin d'écorcher. Moi, c'est plus là que j'ai un problème, Mario. Si on voulait dire qu'on tourne la page, mais au final, on va en parler parce qu'on est là-dedans. Moi, c'est plus ça, de raconter des histoires, puis d'aller dans... Pierre Gervais, c'est un privilégié de la vie d'avoir fait 35 ans avec le Canadien de Montréal dans le vestiaire. Il y a des histoires en or. Il a été en or pour tout le monde qui a passé dans le vestiaire. Donc moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on dise « lui, c'est une mauvaise personne ». Ça, j'aime pas ça, qu'on ait une opinion comme ça. On n'a pas besoin d'aller là dans une carrière aussi positive et belle. Je trouve, moi, il y a juste ça. Le reste, gars, sais-tu quoi? On en compte toutes des histoires. Puis au final, quand gars, ce soir au podcast, on est Michel Bergeron, Roger Brulotte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va raconter des histoires. Ils vont raconter leur histoire à eux de la façon. Puis c'est correct de raconter des histoires, mais il faut juste faire attention à la réputation qu'on peut entacher ou nuire aux personnes autour. Pour le reste, gars, les gens, les partisans sont chanceux. Ils ont un bon livre à lire. Ils ont des histoires du inside du Canadien de Montréal. Moi, c'est juste ça. On n'a pas besoin de parler de Ninima puis de Dom Duchamp qui avait pas sa chambre puis que Pacioretty Subban, c'est pas des. J'ai pas besoin de ça comme lecteur. Pour le reste, bravo à Mathias puis Pierre. Puis Pierre, on l'adore, on l'aime. Moi, c'est plus de ce côté-là que j'ai été un peu dérangé. Pour le reste, that's life. Là,
mais je pense que le fait que c'était si récent sa retraite, ça augmente le niveau, disons, d'inconfort. Pour ceux qui ont ressenti un inconfort, des fois, il y a quelques années qui se passent entre un récit et la carrière. Là, c'est vrai que c'est assez rapproché. Mais j'ai quand même le privilège d'aller bien au-delà du livre et avec Pierre tous les vendredis soirs. Puis d'ailleurs, j'espère qu'on pourra vous inviter un moment à parler d'histoire de hockey autour d'un bon verre de vin qui nous fait déguster. Il vous en a sûrement fait découvrir une pendant votre passage avec le Canadien.
T'as dit verre de vin, c'est réglé. ça nous fera plaisir d'y aller. Puis dans le segment à Pierre, on se prend un verre de vin de la gang, puis on jase. Tu sais, on n'est pas amer de ça au final. On tourne la page, puis la vie est belle, puis tout le monde est heureux, puis c'est le fun. Puis that's it, là, on
plus,
l'aime.
Plus
on a eu du fun en tabarouette avec Pierre. Tu sais, on a eu des super belles années.
Quel bon gars.
C'est ça.
Ouais, mais c'est parce que Mario, c'est l'ampleur que ça prend d'un certain côté, tu sais. Je vais prendre l'exemple le plus facile, là. Je travaille avec Guillaume à tous les jours, on passe toutes nos journées ensemble depuis 18 ans, tu sais. Ça arrive des journées que je m'en vais chez nous puis je suis en tabarouette après lui, là. Puis le lendemain, ben, c'est une nouvelle journée, là. Tu sais, c'est comme ça, je veux dire. L'impact du livre, oui, ça a bousculé plusieurs personnes, un mot pas facile. Mais à un moment donné, faut en revenir, là. Tu sais, c'est passons à autre chose.
Moi, je pense qu'il y a eu de l'acharnement. Tu remarqueras que en tout cas, j'ai pas voulu embarquer là-dedans, mais il y en a qui en ont fait une plus grosse histoire que d'autres.
Ouais, mais tu sais, en même temps, si on commence à comparer ça, Mario, l'acharnement, c'est d'en parler à tous les jours d'une certaine façon, mais mettons qu'on prend le segment du charme, il va être lu combien de fois? 150 000 fois, fait que c'est de l'acharnement aussi. C'est ça, je veux dire. On commence la guerre de mots, puis tout, c'est un livre, c'est plate pour certaines personnes, il y a des gens qui sont fâchés, d'autres pas, mais la semaine prochaine, on n'en parle plus. Là,
absolument.
On dit 90% positif, 10 négatif. 35 ans de carrière, on n'a pas besoin du 10 négatif.
Non, c'est sûr.
Moi, c'est plus ça. Le reste, hey, je suis content, c'est le fun. Honnêtement, que les partisans puissent aient la chance de lire un livre sur l'intérieur du Canadien avec des anecdotes qui sont le fun, qui sont drôles, qui sont à la limite croustillantes, j'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est juste ça.
Je m'attendais à une réaction, mais je trouvais que ça avait l'air d'une réaction du crime organisé d'un dernier jour, mais ça, c'est...
On sait, Mario, la nature de pied, on sait.
Ben ouais. Non, mais faut vrai, c'est ça. Regarde, c'est ça qui est ça. Maintenant, les gars, je reviens à un sujet que je voulais aborder, puis on l'a évoqué tout à l'heure. Les 6 défenseurs en uniforme hier devant Samuel Montembeault, à mon avis, en ce moment, sont les 6 meilleurs disponibles pour le Canadien. Êtes-vous d'accord avec ça? Même si Edmondson ne m'impressionne pas beaucoup depuis qu'il est revenu au jeu.
Oui, c'est, si tout le monde était bon, mais je comprends pas le plan avec Harris. Je pense que Harris, Jacky, Goulet devraient être ensemble dans l'alignement tout le temps. Weidman, Kovacevic, c'est à eux de passer leur tour. Parce que je pense à long terme, tu sais, c'est quoi le plan à long terme avec Kovacevic?
Mais Harris, en ce moment, est moins efficace que les autres.
Oh oui, je suis d'accord, mais on parle souvent de reconstruction de jeunes qui doivent faire face à de l'adversité. Ben, c'est son adversité. En ce moment, il y a un petit creux dans sa saison. Comment il va se relever de tout ça? Ben, c'est pas d'un gradin, là. Mm-hmm. C'est sur la patinoire en faisant ses erreurs. Puis cette année, c'est la bonne saison pour faire des erreurs. C'est tout aussi simple que ça pour moi.
Toi, Guillaume?
Ben, même chose. Je pense que, tu sais, puis c'est drôle parce que on a beau dire c'est une compétition interne, puis il va avoir un roulement. Il reste que dans la tête d'un jeune qui se fait sortir de l'alignement, tu te dis pourquoi j'ai été sorti de l'alignement, tu comprends? Mm-hmm. Fait qu'il y a un doute qui se crée, puis il y a quelque chose qui se crée que tu joueras plus de la même façon que tu jouais avant d'être mis dans les estrades, peu importe la raison qu'on te donne. Okay. C'est humain, c'est normal. Tu te remets, tu sais, pourquoi on n'a pas sorti Goulet? Pour, tu te remets en question, c'est sûr, face à la situation. Fait que je pense que c'est un peu ça du côté du Canadien que ça va faire au niveau des jeunes. Les jeunes n'ont pas d'expérience. Fait que t'as beau dire c'est un roulement de 8, faut faire. C'est humain de faire. Ben voyons pourquoi c'est moi qui sors, pourquoi tu sais, tu comprends, je veux dire.
Oui, oui, oui,
puis il y a des vétérans que je comprends qui ont un statut, un contrat, qui performent pas encore comme on s'attend. Puis tu sais, Edmondson a été blessé beaucoup. Matheson a manqué le camp d'entraînement le début de saison. C'est pas parfait non plus depuis son retour. Fait que tu sais, il y a plein de situations comme ça qui font en sorte que ça crée un mélange. Mais on n'a pas le choix, je pense, de passer à travers ça. Pour du moins jusqu'à la date limite des transactions pour verra rendu là.
Ouais, ben il faut que le gars comprenne également Jacky, je le dis parce que Jacky l'a dit publiquement que lui il s'attendait de commencer l'année à Laval. Fait que, tu sais, dans le cas d'Harris, à un moment donné, il faut que les gars soient réalistes aussi. Il y a des circonstances qui ont permis qu'ils jouent déjà autant de matchs aussi vite dans leur carrière. Tu sais, c'est
ouais,
c'est...
mais quand t'as de l'acquis, Mario, dans la vie, tu sais comment que c'est dur. Quand tu montes 2 marches dans redescendre une, ça fait mal puis c'est plate. Surtout quand t'as performé pour rester sa deuxième marche.
Oui. Mais en même temps, faut que tu composes avec la réalité. Tu sais, si un gardien est moins bon que l'autre, ben, tu vas avoir envie de faire jouer l'autre.
La réalité, Mario, excuse-moi de te couper, mais c'est que Weidman, il est pas meilleur que Harris.
Mais il joue pas non plus.
Non, mais je veux dire, puis Kovacevic, il est pas 100 fois meilleur. Il rend de fiers services aux Canadiens, là, mais pas assez pour enlever un jeune de l'alignement, selon moi, en tout cas.
Ben, tu sais, il y a une couple d'années de millage de plus. Je pense pas qu'il va avoir... Harris pourrait avoir une meilleure carrière que lui, mais Mané, faut que tu... compose avec ce que t'as sous les yeux aussi. Ouais. Tu peux pas te fermer les yeux s'il y en a un qui est clairement moins efficace tout à coup. Je pense que faut que tu prennes des décisions en conséquence, mais c'est pas de le peinturer dans le coin et de dire que ce gars-là est fini, là.
Mais la rotation,
je suis pas sûr de la rotation. Je pense que ça doit être une rotation mérite. Croyez-vous à la rotation de dire, OK, toi tu sors, toi tu entres, toi tu sors, tu entres, faut que tu saches pourquoi tu entres.
Mais tu sais, Mario, quand tu regardes ça, là, de façon relaxe, tu regardes un gars comme Goulet, OK? Lui, il a le luxe d'avoir David Savard pour le supporter. Harris, il a pas ce luxe-là, là.
C'est un excellent point.
C'est un excellent point.
Meilleur point qui est sorti, je trouve, là, en faveur de Jordan dans cette discussion-là. C'est comme les gardiens, des fois, ça dépend comment ça joue devant eux aussi. T'sais, c'est pas toujours la faute du gardien. Avec qui t'aimerais voir Harris? Puis on va sûrement l'essayer avec quelqu'un d'autre, mais c'est un excellent point. Ça fait réfléchir par rapport
au... En ce moment, on met Edmondson avec Madison. Pourquoi pas séparer les vétérans?
Là, c'était Savard Madison, me semble, hier.
Savard Madison.
Goulet avec Edmondson. Ça prend un gars rapide sur chacun des deux duos. Exact. Parce que Edmondson-Savard, c'était pas le duo idéal. On l'a vu.
Non.
Là, c'était mieux hier. Mais oui, c'est
un
sûr.
Un vétéran avec un jeune, aussi simple que ça.
Ouais. À suivre, les gars. Ouais. Demain, Chicago, on va regarder ça avant le week-end et le souper des recrues. Avez-vous un beau souvenir de souper de recrues, vous autres, les gars, juste pour le fun en terminant? Ou pas vraiment?
Oui, oui. Allô, est-ce qu'on peut débloquer ma carte de crédit? Si vous... oh, est-ce que ça... je reçois encore des paiements, Mario?
Ah, ça va être, hey, ça va être dans votre livre, les gars.
Ouais. J'ai juste une question parce que Guillaume, il vient de prendre le téléphone pour mimer. Puis
c'est vrai, on est à la radio.
C'est vrai. Hein? Votre livre va s'appeler Au cœur du souper des recrues.
Ouais, exactement. Mais le souper des recrues, Mario, on a compté une bonne histoire là-dessus. Quand j'avais poussé Bruce Willis, ça, c'est quand même très drôle.
Bruce Willis, l'acteur?
Ouais.
Guillaume, on faisait le party pour notre souper des recrues à New York, puis il y avait un monsieur avec une tuque assis dans la banquette où on célébrait, puis Guillaume voulait son manteau pour partir, donc il a juste soulevé un homme pour le mettre à côté pour lever le banc puis prendre son manteau, c'était Bruce Willis.
Ben voyons donc, toi.
Ouais, je l'ai su le lendemain.
Ah oui, puis lui, il a pas réagi plus qu'il faut.
Non, pas en tout. Justement, je suis surpris que personne m'ait sauté dessus ou quoi que ce soit. Là.
Pas de bodyguard à rien.
Non. Mais je l'ai su le lendemain que Bruce Willis était là.
Aïe, aïe, aïe. Il t'a pas demandé de jouer le rôle d'un méchant dans Die Hard 14, non?
Je me rien demandé à date.
Hey, les gars.
Téléphone est ouvert.
C'est bon. Max, Guillaume, merci beaucoup. Bonne soirée de podcast, les boys. À bientôt.
Salut, Mario. Bye-bye.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Tout le monde a envie de parler de gardien de but. Qui sera devant le filet des Canadiens demain contre les Blackhawks de Chicago? Équipe dont le coach est gardien de but et le frère de mon prochain invité, lui-même ancien coach de cette équipe-là. J'ai les gardiens de but, Stéphane White. Bonsoir, Steph. Comment ça va?
Salut, Mario. Comment ça va? Ça va bien.
As-tu aimé, victoire du Canadien? Écoute, des fois, ça a l'air de vouloir partir d'un bord, puis ils ramènent toujours ça du bon bord. Victoire hier à Columbus, très fort match, même si ça n'a pas été un bombardement. C'est pas toujours le nombre des lancers qui fait foi de tout, mais solide performance de Samuel devant le filet. Steph, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ben écoute, solide, pas à peu près, Mario. Il est la raison de la victoire, d'après moi. Vite de même là, que je me souviens de ces cinq gros arrêts, puis spécialement la séquence où il y a eu deux échappés contre lui là, en dedans de quelques secondes. Assez impressionnant comme match. Samuel qui, à son septième départ, a, à mon avis, six bons départs, puis il s'est relevé de son pire départ qui était son avant-dernier justement à Columbus. Écoute, il a monté du caractère, puis très solide. Honnêtement, là, c'est toute une performance.
Un coach aime toujours ça, que ce soit le coach Jégo là ou le coach en chef, Martin Saint-Louis, qu'une semaine après une performance qui n'était pas sa meilleure à Columbus, d'aller sur la même glace contre le même club, puis être bien meilleur. 9,68 d'efficacité hier soir, justement. Là.
Oui, exactement. Mais écoute... Quelle saison, on se répète encore, écoute, au niveau de sa moyenne d'efficacité après sept départs, c'est 922, là, c'est dans les 10 meilleurs de la Ligue nationale. Donc, il mérite d'avoir un petit peu plus de temps de glace, mais faut quand même y aller mollo. Je m'explique. Premièrement, il mérite d'être dans le filet à Chicago demain. Je sais qu'ils n'ont pas annoncé le gardien de but encore. Je serais surpris que ce soit pas Samuel dans le filet demain à Chicago. Pour deux raisons. Premièrement, il sort d'une performance sans tâche. Pratiquement, même le but contre, là, il y avait pas grand chose à faire contre. Et deuxièmement, les performances de Jake Allen dans ses quatre derniers matchs. Jake Allen dans ses quatre derniers matchs a donné pas loin, a donné exactement 19 buts. Et puis, c'est juste une bonne affaire des fois pour un gars comme Jake de juste prendre un petit pas en arrière, regarder ça, avoir des bons entraînements, et puis ça va y faire du bien, ça, de peut-être d'avoir un petit break. Puis tu ramènes un filet mardi prochain. Il rejoue seulement mardi prochain après ça à Montréal avant le départ sur la route. Donc, ça serait pour les deux raisons. Je vois pas pourquoi que ce serait pas Samuel demain dans le filet.
Ouais, moi aussi, j'ai le même raisonnement que toi. On en discutait hier après la rencontre, puis je pensais à comment tu aurais processé ça dans ton esprit à toi. Je sais pas à quoi peut ressembler un dialogue entre Éric Raymond et Martin Saint-Louis là-dessus. Puis même Martin, hier, dans le petit point de presse d'après-match, a dit, ouais, il dit, c'est vrai que, tu sais, comme c'est la première fois qu'il ouvrait un peu sur le fait que, oui, les performances peuvent changer les choses. J'imagine que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas y aller contre ton instinct. Je peux pas croire que dans le fin fond de ses tripes, Martin voit quelqu'un d'autre que Montembeau dans le net demain.
Non, moi tout. Je peux pas concevoir que ça va être un autre pour les deux raisons que je viens de te donner.
Exact.
Comment toi, puis comment toi, même si en ce moment, Allen, c'est encore ton numéro un, comment toi, j'ai vu un gars comme Carey avoir une mauvaise période. Pis c'est quoi qu'on faisait? Je demandais à l'entraîneur, on va pas le retirer pour deux ou trois matchs. That's it. On va avoir des bons entraînements, on va revenir à la base, après ça, on le ramène. Et puis ça a tout le temps fonctionné, puis je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas pour Jake Allen, une période creuse. Puis ça donne bien, Samuel est hot. Donc, y a aucune raison de revenir avec Jake Allen demain.
Non, et je pense qu'on est d'accord sur une chose tous les deux, puis il y a des gens qui m'écrivent d'ailleurs à ce sujet-là sur les différentes plateformes. Loin de nous, parce que je pense pas que, ben oui, on aime ça parler de sujets qui intéressent les gens pour avoir le plus de monde à l'écoute, mais on n'a pas personne en tête l'idée de lancer une controverse de gardien de but.
Non.
Moi, je pense qu'on veut un duo, un bon duo de gardien de but. Danny Dubé suggérait un meilleur partage des tâches, du nombre de matchs. Puis je pense que tout naturellement, c'est là qu'on s'en va. Parce que imagine si t'en avais pas de bon deuxième, pis t'es obligé de revenir avec Jake demain, pis t'as pas d'alternative. C'est précieux de pouvoir compter sur un autre gars, comme...
Oh!
Hein? C'est la moindre des choses.
Il n'y a aucun doute là-dessus. À cette heure, qu'est-ce que les clubs rêvent d'avoir? Parce que la plupart des clubs ont un bon numéro un. Ce que les clubs rêvent d'avoir, c'est un bon numéro deux. Et puis ceux-là sont rares, puis j'en ai souvent parlé, puis c'est la raison pourquoi on va été chercher Jake Allen quand j'étais avec le Canadien pour avoir un des meilleurs numéro deux de la Ligue nationale. Mais là, en ce moment, pour moi, dans ma tête, c'est encore Jake Allen le numéro un. Ça veut pas dire que tout de suite, là, donc, c'est seulement ça de départ, là. Faut y aller tranquillement avec Samuel Montembeau, mais s'il continue des performances de même, de plus en plus, tu en donnes un petit peu plus. Un petit peu plus. C'est par étape, par étape. Puis là, tu es en train de faire ce qu'on appelle en anglais un build-up. Tu es en train de
construire
sa confiance.
Oui.
De construire sa confiance. Puis c'est un petit peu comme un boxeur, hein. Et, tu veux l'emmener jusqu'au bout, mais tu y vas tranquillement, avec des adversaires qui peuvent battre, puis pas trop souvent, puis tranquillement, puis c'est un build-up pour l'emmener jusqu'au bout. Et puis c'est ce qu'on est en train de faire avec Samuel. C'est pour ça que je veux pas qu'on aille quand même trop vite avec lui. Oui, il mérite de partir le prochain match, mais quand même, faut pas partir en peur. C'est un build-up jusqu'à temps. Après les fêtes, puis j'ai souvent comparé, Mario, ma situation avec Cristobal Huet et puis MT Niemi. Quand MT est arrivé à Chicago, notre numéro un, c'était Cristobal Huet. MT jouait mieux que Cristobal, mais quand même, c'était Cristobal notre numéro un. Puis tout le monde se demandait pourquoi on ne faisait pas jouer plus MT. Fait qu'on y allait tranquillement. Puis après les fêtes cette année-là, MT, on y en a donné beaucoup plus. Puis éventuellement, il y a eu le filet. On a gagné la Coupe Stanley. Deux ans plus tard, on a fait la même affaire avec Corey Crawford, où ce que le numéro un, c'était Marty Turcotte. Corey jouait beaucoup mieux que Marty Turcotte, mais Marty, c'était notre numéro un quand même. Puis on est allé étape par étape avec Corey Crawford, qui éventuellement est devenu notre gardien de but numéro un après les fêtes.
Sans manquer de respect à Jake, là, loin de là, c'est un bon professionnel, mais tu sais, c'est un numéro un peu par défaut ou dans les circonstances, comme Craig Anderson est numéro un à Buffalo. Tu sais, c'est que t'en as pas d'autres, ouais. Il en pleut pas des gardiens, parce que des fois, quand je regarde son début de saison, plus ça va, je me demande si on l'a pas signé trop vite pour les deux prochaines années, bien qu'au moment de la signature, tout le monde applaudissait. C'est une autre histoire. Ouais. Restons dans le présent. Mais les gens veulent un numéro, hein. Puis d'ailleurs, bon, t'as eu de l'expérience, 18 ans comme coach des gardiens dans la Ligue nationale, t'as sûrement eu un gardien que Mané venait d'avoir un jeune bébé. Pour les gens qui disent, ben là, c'est peut-être parce qu'il y a un nouveau-né à maison, c'est pas évident pour Jake, il doit arriver fatigué. Est-ce que ça peut servir de prétexte ou expliquer des fois le fait qu'il y ait une petite baisse de régime ou pour toi, en 18 ans d'expérience, ça n'a jamais affecté un de tes gardiens?
Non, pas vraiment. Honnêtement, là, pas vraiment. Les gars, là, ils ont les moyens d'engager des nounous qui s'occupent de ça, puis et toute la, c'est la réalité aussi, là, la plupart c'est ce qu'ils ont souvent, là, parce que le sommeil est très important. Mais non, pour Jake, écoute, je pense que c'est l'historique de sa carrière qui le prouve que pas qu'il y a eu la chance d'avoir beaucoup de matchs ou d'être numéro un, entre parenthèses, numéro un. Il a tout le temps montré des signes de faiblesse à un moment donné. Et puis il a tout le temps prouvé dans l'historique de sa carrière que moins qu'il joue, meilleur il est. Et puis il n'y a rien de changé cette saison. On en parlait justement, moi puis toi, Mario, en ongle lundi soir, comment que Jake en ce moment, on a dit souvent que les gardiens de but tenaient le Canadien dans le match depuis le début de la saison. je suis pas d'accord avec ça au niveau de Jake. Jake, sur une douzaine de départs, pour moi, il y en a à peu près au moins la moitié, ce qui était très ordinaire.
Et on dira ce qu'on voudra, une équipe peut être en transition, reset, reconstruction, etc. Il y a un auditeur, je me rappelle d'un appel hier en fin de soirée, où il dit, tu sais, ça revient toujours au gardien, mais c'est partout dans la ligue, toutes les équipes, peu importe où tu es au classement, que tu vises des grands honneurs, que tu essaies de survivre, d'accéder aux séries ou d'éviter de finir dans la cave, on va toujours parler des performances des gardiens. Tu sais, c'est incontournable.
Ben, écoute, c'est un incontournable. C'est la position la plus importante. Et j'ai tout le temps dit, moi, à des entraîneurs-chefs, je dis, écoute, là, si que t'ailles le système de jeu que tu voudras, si le gardien de but ne fait pas les arrêts, t'as aucune chance.
C'est pas plus compliqué que ça. Juste avant de te quitter, Stéphane, puisqu'on a consacré toute la conversation à parler des gardiens de but, prends un peu de recul, puis je te demande une opinion sur l'ensemble de l'équipe hier, qui rebondit, on en a gagné sur la route. Qu'est-ce que t'as aimé, puis y a-tu quelque chose que t'as moins aimé comme ça, en conclusion?
Ben, en conclusion, moi, ce que je retiens, c'est surtout... premièrement, ils ont bondi, puis c'était un match. Ils ont joué un bon match, dans le sens qu'un bon match, quand tu joues un deux games en deux soirs, surtout quand tu as un voyage à faire, faut que tu gardes ça simple, puis faut que tu limites les dégâts. Puis c'est ce qu'ils ont fait hier. Ils ont joué un match plate sur la route, puis c'est le genre de match que tu dois jouer, surtout quand tu as joué la veille. Ça, là, j'ai pas de trouble avec ça. J'ai la défensive que je trouve un petit peu là suspect dernièrement. Et puis. Et je regarde ça aujourd'hui, là, c'est souvent depuis la venue de Joel Edmondson que défensivement, on a beaucoup de problèmes dernièrement. C'est drôle à dire, les vétérans reviennent, puis on joue moins bien qu'on était qu'au début de la saison quand il y avait quatre recrues dans le line-up au niveau de la défensive. Donc, faut laisser du temps à Edmondson, faut laisser du temps à Matheson, parce que ces deux gars-là, en ce moment, sont entre guillemets en camp d'entraînement, mais il reste qu'en ce moment, Edmondson, c'est le pire défenseur. En 10 matchs, il est moins 5 déjà. Tu vois que ça va vite pour lui. Donc, il va falloir y laisser du temps.
Tu sais, je l'ai souvent dit, puis c'est pas pour le déprécier, là, mais Edmondson, c'est loin d'être Bobby Orr, là, puis en plus, comme tu dis, une longue inactivité. Et c'est un gars qui a eu de la misère à s'établir comme défenseur régulier dans la Ligue nationale. Il a jamais joué plus que 70 matchs dans une saison. Et je veux dire, Caroline l'a pas laissé aller pour rien. Puis à Saint-Louis, en série, l'année de la Coupe, il a pas joué tous les matchs. Alors, là, il est dans une chaise, évidemment, en tout cas sur le papier ou sur le tableau, on le voit haut dans la hiérarchie, mais c'est pas de nature, c'est pas un top 3, ce gars-là, là.
Moi, j'ai tout le temps trouvé ça spécial qu'on le voyait si gros que ça, parce que je me souviens de lui quand il jouait à Saint-Louis. C'était un joueur qui jouait sur une troisième paire au mieux. Il y a la même chose en Caroline. Il arrive à Montréal et puis tout d'un coup, c'est tout un défenseur. Non, je crois pas ça. C'est un bon défenseur de profondeur. C'est un bon coéquipier. C'est un gars qui peut jouer une game tough. Mais c'est un gars qui est quand même des mains très, très limitées au niveau le hockey sense très limité. Et rapidité, spécialement cette saison, très limitée. Donc, des soirs, ça peut aller vite de son côté.
Absolument. As-tu aimé, la rotation, juste un petit supplément, là, y crois-tu? Je vais en parler avec Guillaume puis Maxime également. Rotation, pour moi, c'est pas toujours signe de compétition si c'est une rotation, chacun son tour. Je veux savoir pourquoi quelqu'un entre puis quelqu'un sort à la ligne bleue. Hier, Wineman et Harris, en dehors de l'alignement, j'aimais les six qu'on avait en uniforme, même si Edmondson n'était pas parfait.
Ben, je suis d'accord avec ça. Moi, tout, ça serait difficile. Ça va être difficile d'en sortir un. Puis surtout Kovacevic, en passant, là, il est le meilleur du Canadien au niveau des moins et des plus, hein. Le meilleur à plus 5 au niveau des défenseurs. Là, c'est lui qui est le meneur. Autre chose que pourquoi tu peux pas le retirer de l'alignement, c'est un droitier. Puis ils sont rares, nos droitiers. On manque de droitiers au Canadien. Donc, ce serait le choix facile de sortir, mais avec tout ce qu'il démontre cette saison, c'est pas facile de sortir de là. Donc, les autres aussi. Jack Eye, pas évident de sortir ce gars-là. C'est le gars qui a le plus de buts chez les défenseurs. C'est le gars qui a le plus de tirs au but chez les défenseurs. Pas évident de sortir. Puis Goulet, Edmondson, Matheson, puis Savard. Tu touches pas à ça. Donc, pas évident de sortir un de ces six-là en ce moment.
Vraiment pas. Et ça termine bien notre conversation ce soir. Steph, je te dis un gros merci. Et tu vas regarder ça demain, bien sûr.
Mes deux clubs.
Chicago-Montréal, c'est toujours un incontournable. On s'en parle bientôt, Steph. Merci beaucoup.
Bonne fin de semaine, merci.
Toi aussi. Bye-bye.
Les amateurs de sport. pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
La Coupe du Monde s'est poursuivie aujourd'hui. C'est pas tant des matchs dont je veux vous parler, mais du rayonnement de l'équipe canadienne et de ce que ça provoque ici au pays, dans les communautés où certains des joueurs ont grandi. Et d'ailleurs, à ce sujet, hier, il y a eu un visionnement qui est organisé par un professeur qui est responsable, un gars de soccer, un gars de sport, responsable, dirigeant de l'Académie Louis Riel Soccer, qui a connu Jonathan David, qui a fréquenté l'école secondaire francophone Louis Riel à Ottawa. Il l'a connu comme élève, comme jeune joueur de soccer. Ce prof-là, Joey Fournier, a organisé un visionnement pour les élèves de l'école hier et on l'a au bout du fil ce soir. Monsieur Fournier, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, vous avez bien connu Jonathan David avant qu'il ne devienne un porte-couleur de l'équipe canadienne en Coupe du Monde.
Oui, absolument. J'ai eu ce privilège-là et cet honneur-là, oui, pendant 4 ans.
Est-ce que c'était clair qu'il y avait un talent hors de l'ordinaire, qu'il allait avoir une chance de réussir, ne serait-ce qu'en MLS, avant même de songer aux Grandes Ligues européennes, là où il évolue actuellement en France?
Oui, Jonathan se démarquait du lot, c'était certain. Il avait des excellentes qualités, là, des qualités remarquables en tant que joueur, puis aussi dans sa façon de faire les choses, son comportement, sa personnalité. Donc, on voyait des grandes choses pour lui, mais encore de dire qui était pour être où est-ce qu'il est en ce moment... Ça, c'est assez dur à prédire.
Il n'a que 22 ans en ce moment, a joué son premier match en Coupe du Monde, évidemment, hier. Il aura 23 ans le 14 janvier. Donc, vous l'avez connu là, au cœur de son adolescence, son passage au secondaire là, à l'Académie Louis Riel Soccer. Là.
C'est ça. Il est arrivé avec nous en 9e année, parce que nous, c'est le système ontarien. Puis après ça, il a gradué en 12e année. Puis il est parti en Belgique tout de suite après son année de graduation.
Et vous avez décidé d'organiser un visionnement hier. Est-ce que l'idée a plu à vos élèves?
Absolument. Il y avait une ambiance incroyable dans le dôme. Puis il n'y a pas une personne qui s'en est plaint.
C'était quoi l'intention? Puis je trouve que c'est une bonne idée, veux pas, parce que c'est inspirant. C'est quoi le profil de la clientèle de cette école secondaire francophone publique à Ottawa, M. Fournier?
Nous, le programme, ce qu'on veut, c'est permettre aux jeunes de pouvoir pratiquer le sport à l'année longue, puis que ce soit abordable. Le foot au Canada, c'est très dispendieux en général. C'est plus un sport qui est le sport qui était avant, où est-ce que tout le monde pouvait jouer parce que c'était pas cher. Fait que nous, on veut s'assurer que les jeunes peuvent pratiquer le sport qu'ils adorent. Donc, ils ont la chance de pratiquer leur sport chaque jour avec nous. Là, on est très gâtés. On a un dôme avec un terrain synthétique à 11. Donc, on peut pas se plaindre pour ça. Là.
D'avoir un Jonathan David qui est passé par votre programme, par votre école, qu'est-ce que ça a comme effet sur les jeunes qui fréquentent ce programme actuellement?
Ça leur permet de rêver, mais aussi de réaliser que souvent les rêves deviennent réalité. Nous, on leur dit qu'il n'y a jamais de rêves qui sont trop fous, en autant que tu es prêt à t'investir et à travailler, c'est ce qui est le plus important.
Avez-vous vu dans les yeux de ces jeunes hommes, de ces jeunes filles-là, des yeux qui pétillaient quand vous leur avez parlé? Est-ce qu'ils étaient tous conscients que Jonathan David était passé par votre école?
Absolument. C'est plus un secret. On est chanceux parce que pour les filles, on a aussi Vanessa Gilles qui est à notre école. Donc, on a deux anciens qui sont des inspirations incroyables pour nos athlètes en ce moment. Durant la qualification, on a organisé des séances de visionnement, mais c'était pas à l'école à ce moment-là parce que c'était en soirée, donc on avait fait ça dans des restaurants locaux. Mais là, on est un peu choyé parce que la Coupe du Monde se déroule pendant l'année scolaire, pendant les heures de classe. Donc, puis Jonathan, il est là, évidemment. Donc, pour nous, ça tombe très bien, là.
Avez-vous ressenti une émotion particulière quand vous avez vu des images de lui sur le terrain hier au Qatar?
Absolument. Absolument. J'avais des sentiments, premièrement, parce que moi, c'est un vieux de la vieille, ça fait longtemps que j'appuie l'équipe nationale. Donc, j'ai souffert pendant des décennies, on peut dire. Donc, hier, là, il y avait des grandes émotions par rapport à ça, d'entendre l'hymne national à la Coupe du Monde, puis ensuite de voir Jonathan sur le terrain qui chantait l'hymne national. C'était, c'est assez spécial, puis quelque chose que j'aurais jamais imaginé de vivre. Là. Même ces deux moments-là, de les vivre, à un moment donné, je me disais, est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais pouvoir voir le Canada à la Coupe du Monde un jour?
Et voir le Canada un jour à la Coupe du Monde avec un ancien élève au sein de la formation, ben là, c'est la totale. Allez vous acheter un billet, comme on dit.
Oui, effectivement. C'est peut-être une bonne idée.
J'ose vous demander, Joey Fournier, responsable du programme de l'Académie Louis Riel Soccer de l'école secondaire du même nom à Ottawa. Voyez-vous de futurs Jonathan David, là, qui ont 13, 14, 15, 16 ans actuellement? En avez-vous quelques-uns sous vos yeux?
Écoutez, si je vous disais que je suis capable d'identifier des joueurs qui vont jouer au niveau que Jonathan joue en ce moment à 13, 14, 15, 16 ans, je pense que je devrais m'acheter plus que des billets de loterie. Je devrais investir peut-être devenir agent de joueurs. C'est très difficile à cet âge-là de prédire qu'est-ce qui va arriver parce qu'il y a tellement d'intangibles et d'incontrôlables qui peuvent arriver, mais on a des jeunes extrêmement passionnés, engagés, puis qui ont du talent, évidemment. Là. Fait qu'on verra ce que l'avenir leur réserve. J'ai de beaux espoirs, mais on verra ce qui va arriver.
Et en terminant sur Jonathan David, sans pouvoir prédire ce qu'il allait vivre comme expérience, qu'est-ce qui ne s'enseigne pas qu'il avait déjà, qui lui permet d'atteindre ce niveau-là où il est aujourd'hui?
Les trois choses que je remarque surtout, c'était qu'il était toujours de bonne humeur. Donc, j'ai jamais vu se plaindre à propos d'une session, à propos de ses coéquipiers, à propos des adversaires, l'arbitre, peu importe. Son niveau d'engagement, il était très élevé. Il voulait toujours être sur le terrain, que ce soit à l'heure du dîner, le matin, après l'école, avec nous, avec ses clubs, peu importe avec qui il s'entraînait. Il voulait toujours, toujours être sur le terrain, avoir le ballon. Puis, dernièrement, c'était sa passion pour le foot, sa passion pour ce sport. Puis, ça se voyait déjà, là. Ça, c'est les trois choses que je retiens surtout de Jonathan.
Est-il retourné visiter l'école depuis qu'il est pro?
On l'a vu une fois au mois de décembre, mais on l'a vu quand il était en Belgique, on l'avait vu, mais la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en décembre 2019. Moi, j'ai eu la chance de le voir là, après le match dans lequel le Canada s'est qualifié pour la Coupe du Monde contre la Jamaïque à Toronto. J'ai eu la chance de le voir après le match dans une célébration pour l'équipe. Et puis, on a jasé un bon 15-20 minutes. Là, puis, je l'ai trouvé très gentil de prendre le temps de venir me voir.
Il reconnaît son monde. Et une petite anecdote en terminant, je faisais des lectures à son sujet et on dit de lui en équipe nationale qu'un de ses traits de caractère, c'est que, bon, en situation de match, il est évidemment all-in, il est très dédié, très engagé, mais que quand il est pas en situation de match, c'est un gars plutôt relax à la démarche qui frise la nonchalance. Pouvez-vous confirmer que vous avez vu ça également à l'adolescence chez Jonathan David?
Oh, absolument. J'ai lu une citation d'Alastair Johnston du CF Montréal qui disait: quand on est dans l'autobus, on sait qu'on peut quitter lorsque Jonathan est arrivé dans l'autobus parce qu'il est toujours le dernier. Puis ça l'arrivait souvent avec nous aussi lorsqu'on avait des tournois ou quoi que ce soit. Jonathan et deux de ses collègues en particulier qui étaient... on savait que c'était la cloche pour partir.
Eh bien, M. Fournier, bravo pour votre beau travail avec les jeunes qui pratiquent le soccer dans la région d'Ottawa, l'Académie de soccer Louis Riel. Et puis, ben, bon visionnement dimanche, sans doute à la maison, et peut-être en classe mardi prochain contre le Maroc. On verra.
Oui, ben dimanche, on prévoit faire ça dans le dôme encore une fois. Peut-être un petit peu moins gros parce que c'est pas pendant les heures de classe, là, mais on a un match juste avant, fait qu'on a invité tous les jeunes du programme encore là, à se rassembler. Puis mardi, ben, on espère faire quelque chose de spécial avec les élèves de l'école encore.
Ben, c'est génial. C'est rassembleur. C'est inspirant. Ça fait rêver. Merci, M. Fournier.
Merci à vous. Bonne soirée.
Au revoir. Joey Fournier, responsable du programme de l'Académie Louis Riel Soccer, attaché à l'école secondaire francophone publique Louis Riel à Ottawa.
Les amateurs de sport.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.